Au groupe, nous sommes quelques-uns à avoir déjà croisé des djihadistes au cours de nos missions à l'étranger. Et nous ne doutons pas de leur jusqu'au boutisme. La situation devient d'autant plus compliquée que Koulibaly menace de tuer tous ses otages si un assaut devait être lancé à Dammartin contre les frères Kouachi. Et grâce aux informations abondamment relayées par les journalistes, rien ne lui échappe de ce qui se passe ici. Il nous faudra donc coordonner notre assaut avec celui des équipes du RAID et de la BRI chargées d'intervenir à l'hypercacher. Steph, le chef de la section 4, l'ancien du Liban, est chargé de préparer notre assaut. Il nous attend au pied du Sherpa et nous adresse ses consignes. Toi, Phil, tu as l'expérience du feu. Tu as du sang-froid et tu fais partie des meilleurs tireurs du groupe. Si tu es OK, je te mets en tête de colonne avec Christophe et Gégé sur le Sherpa. Vous entrerez les premiers par la fenêtre du premier étage où nous avons la certitude que se trouvent les frères Kouachi. Moi, je serai derrière vous avec les autres. Steph, merci pour ta confiance. Les Kouachi veulent buter du flic avant de mourir. Ils ne laisseront pas passer l'occasion. Alors ne me remercie pas, car il y a de grandes chances pour que vous soyez blessé ou tué. Quand nous nous retrouvons tous les trois, Gégé, Christophe, mes anciens complices des formations à l'étranger et moi, nous éprouvons un petit sentiment de fierté, car pour nous c'est un honneur d'être en tête. Nous nous répartissons les tâches. Christophe aura le bouclier. Je serai en numéro 2 et Gégé en numéro 3. Attends. Et s'ils ont piégé les fenêtres ? S'inquiète Christophe. Impossible d'emmener avec nous un dépiégeur d'assaut. Il lui faudrait trop de temps pour inspecter la fenêtre, répond Gégé d'une voix impassible. Sans compter la cible qu'il ferait pour les deux tueurs. Ma remarque fait aussitôt réagir Gégé. C'est sûr, on va recevoir des impacts. Mais on va y aller à la détermination. Ce sera eux ou nous, pas de quartier. Tant que rien de vital n'est touché, on tire. Je dis cela sans trop y penser, mais je réalise brusquement que c'est bien ce qui risque d'arriver. C'est moi qui ai le bouclier. Restez derrière moi et ça devrait le faire. Mais si ça foire, on se retrouvera là-haut, au bistrot du coin, chez Jésus, pour se boire une bonne bière. Balance Christophe qui ne se départit jamais de son humour, même dans les pires moments. Ce qu'il aime moins, ce sont les poignées de main des ops de la section, qui nous donnent l'impression que nous allons partir pour notre propre enterrement. J'appelle rapidement Edwige afin qu'elle ne se fasse pas trop de soucis, mais elle ne me laisse pas le temps de parler. Ta place ?
Quoi, ma place ?
Quel est ton numéro dans la colonne ? Dis-moi la vérité.
Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, et puis... Au pire, s'il m'arrivait quelque chose, arrange-toi pour que l'on ne retienne que ce que j'ai fait de bien.
Je t'ai demandé ta place, Philippe.
Dans le groupe de tête, voilà. On nous fait confiance, vois-tu ? Ce qui arrive après, c'est la destinée.
Phil, courage. On est avec toi. Je t'aime.
Ed, je te fais confiance pour les petits. Je t'aime aussi très fort. Je raccroche le cœur gros.
En début d'après-midi, nous réfléchissons aux moyens de libérer l'employé qui se cache toujours sous son évier, mais il nous semble impossible d'amener une échelle sous la fenêtre de la pièce dans laquelle il se trouve sans attirer l'attention, ce qui l'obligerait à sauter d'une hauteur de plus de 3 mètres pour pouvoir être exfiltré. Le risque serait alors sérieux s'il se fracture la jambe ou la cheville et qu'il constitue une cible facile pour les frères Kouachi. Nous préférons attendre un moment plus favorable. Il regagne donc sa cachette, sous son évier, pour continuer à fournir à nos négociateurs des renseignements sur ce qu'il peut entendre depuis sa position. Parallèlement, l'assaut se prépare. Les EFRAC ont disposé des explosifs afin de créer plusieurs brèches au moment où nous pénétrerons par la fenêtre. Je prépare mes armes, mon Glock 19 et mon HK-416. En face, les Kouachi sont équipés de gilets pare-balles, ce qui me laisse à penser que le calibre 5,56 mm sera sans doute un peu léger. Je pars vers les camions du peloton hors rang pour récupérer un chargeur de munitions perforantes ainsi que des grenades offensives. On n'est jamais trop prudent. Ces gendarmes du peloton hors rang sont les magasiniers et les transmetteurs de l'extrême. J'ai du respect pour eux, car nous autres, les ops, nous ne les épargnons pas. Pire, il nous arrive de les malmener. Il m'est arrivé plus d'une fois de demander à l'un d'eux de m'apporter un mécanisme d'arme,
dont j'avais relevé le nom dans une notice technique, une clavette par exemple, pour le seul plaisir de chronométrer le temps qu'il mettrait à me le fournir. Si le gendarme me répondait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» ou s'il mettait trop de temps à produire la pièce demandée, alors il y avait de fortes chances pour que sa carrière chez nous s'arrête brutalement. Cruel ? Pas tant que ça. Car nous plaçons notre vie entre leurs mains. Une lampe sur une arme qui ne s'allume pas, une radio qui crachote ou une oreillette foireuse, des jumelles de vision nocturnes dont ils auraient oublié les batteries de rechange, et c'est le succès de la mission qui risque d'en pâtir, à moins que ce ne soit notre vie. Ils doivent donc tout connaître de nos besoins et être capables de nous donner dans la seconde tous les matériels qu'exige une situation opérationnelle. Le magasin d'équipement de Satori, qui regroupe l'ensemble des matériels, reste ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sans ces gendarmes du peloton hors rang, nous n'aurions pas le niveau d'efficacité qui est le nôtre aujourd'hui. Il est 16 heures. Et cela fait maintenant près de 8 heures que les Kouachi sont retranchés dans cette imprimerie, sans avoir prononcé la moindre parole, à l'exception du « Allahu Akbar », hurlé par Saïd lors de l'échange de coups de feu avec le gendarme départemental le matin même. Les négociateurs ont en vain essayé d'entrer en contact avec eux, mais les seules sources d'informations dont nous disposons proviennent de Lilian, toujours planqué sous son évier, ainsi que de nos tireurs, qui rendent inlassablement compte de leurs observations et des quelques moyens techniques mis en place par nos spécialistes. Le commandement nous informe alors qu'un top action pour un assaut synchronisé entre Vincennes et Dammartin a été décidé. Tant mieux, car nous sommes prêts à intervenir. Deux tireurs d'élite sont postés sur la terrasse d'un entrepôt, à une soixantaine de mètres de l'entrée principale de l'imprimerie. Une équipe EFRAC, protégée par un Swatek blindé, le véhicule d'assaut destiné à être bientôt remplacé par le Sherpa, se trouve devant nous, à une vingtaine de mètres de distance. La mission de cette équipe consistera à pratiquer des ouvertures sur la façade, baptisée Alpha, à l'aide de grenades à fusil spécial de fabrication israélienne. Nous, l'équipe d'assaut, sommes en attente sur le toit du Sherpa, derrière une haute haie perpendiculaire à l'imprimerie, à 50 mètres de celle-ci. Au top action, notre véhicule de 10 tonnes s'ébranlera à pleine vitesse pour prendre sur sa gauche et venir plaquer son échelle d'assaut à la hauteur d'une fenêtre latérale du bâtiment. C'est par là que nous pénétrerons dans les lieux. Oreillette en place, casque balistique sur la tête, cartouche engagée dans la chambre du 416, les équipes d'assaut sont prêtes. Mais soudain, à 16h56, nos tireurs d'élite annoncent sur leur radio. Ça bouge en alpha, ils viennent d'entrouvrir la porte. Aussitôt, la mécanique de l'assaut se met en branle. Le Swatek avance parallèlement à l'imprimerie avec l'équipe EFRAC, laquelle débarque bientôt à l'abri du véhicule, côté opposé à la façade de l'imprimerie, pour lancer ses grenades par les ouvertures. Notre Sherpa enquille à pleine puissance, à une trentaine de mètres derrière le Swatek.
Ils sortent !
Depuis le toit du Sherpa où je me trouve avec l'équipe d'assaut, je vois alors les feux stop du Swatek s'allumer. Et j'entends en même temps le mot « grenade » être hurlé dans mon oreillette, alors même que notre véhicule tournait à gauche pour faire face à l'imprimerie. Ce sont les deux EFRAC qui viennent de tirer leurs grenades à fusil israéliennes sur les portes et les fenêtres. Pour deux raisons. En cas de repli des frères Kouachi, nous pourrons pénétrer par ces ouvertures puisque ces grenades auront fait sauter les pièges éventuels. Les tireurs savent aussi que l'effet de souffle qu'elles produisent pourrait coucher les deux hommes qui sortent et permettre ainsi leur arrestation. Les grenades explosent en effet dans le dos des frères Kouachi, mais les déflagrations ne font guère plus que les secouer et ne les font hésiter qu'un très court moment. Ils reprennent aussitôt leur course folle et sortent de l'imprimerie en ouvrant le feu avec leur kalachnikov tout en hurlant « Allahu Akbar !» Les deux frères ont décidé d'engager le combat. Ils avancent en tirant de brèves rafales, ce qui ne nous laisse guère la possibilité de les capturer vivants. Nous devons ouvrir le feu. Nos tireurs d'élite sont postés à 100 mètres de distance, mais les EFRAC ainsi que nous autres du groupe d'assaut faisons feu l'espace de quelques secondes. Une première balle de calibre 338 traverse le gilet pare-balles de shérif, qui s'immobilise un court instant, avant de faire encore deux ou trois pas et de s'écrouler. Son frère Saïd, qui avait encore son arme à la hanche, la relève pour épauler, mais il tombe lui aussi foudroyé par nos balles. C'est fini. Ceux pour qui le phare du djihad a brillé plus fort que les valeurs de la République sont étendus là, sur le parking anonyme d'une zone artisanale.